Je vais essayer de ne pas faire ça, mais beaucoup de choses ce matin encore. Donc, la semaine passée, on a vu la mauvaise nouvelle. On parle de la guerre. On a parlé la semaine passée des ennemis. Et puis, on vous disait que cette semaine, on était pour parler des armes qui sont mises à notre disposition pour pouvoir combattre contre ces ennemis-là. Quelques passages, mais le temps étant ce qu'il est, on va se concentrer principalement sur le passage qu'on pense quand on parle du combat, quand on parle des armes, que vous avez probablement deviné, Éphésiens 6. Donc, Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'à 18, j'avais mis jusqu'à 20 au début, mais bon. J'avais déjà 10 pages, donc. Alors, c'est Paul qui nous parle de sa prison. Et voici ce qu'il dit à partir du verset 10. Au reste, ça fait suite à, bien sûr, tout ce qui a été dit avant, chapitre 5, début du chapitre 6, où ce qui exhorte les maris, les enfants, les femmes, les serveurs, les serviteurs, etc. Et il conclut avec ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. Quand vous entendez ça, ça vous dit quoi, vous autres? Prendre des forces, c'est ça que tu as dit? Renouveler, prendre des forces. OK. On se fortifie. On augmente, on renforcit, on dit à Québécois, hein, on ajoute la force. Bien sûr, il y a certains passages dans la parole qui nous dit qu'on n'a pas de force. On est faible, sans Dieu, on ne peut rien faire. Entre autres, Jean 15, quand il parle du cep et des serments. Donc, on n'ajoute à rien. D'une certaine manière. D'autres vont dire, ben, c'est une image aux yeux de Dieu, comparativement à ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est ça que ça veut dire. Donc, oui, on a des capacités. Peu importe. Qu'on parle de capacité ou qu'on parle d'aucune capacité, une chose est certaine, on n'a pas assez. On a besoin de plus. Par nous autres mêmes, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas assez de force, on n'aura pas assez de puissance. On n'aura pas assez d'armes pour combattre. C'est indéniable. Donc, Paul nous dit de se fortifier. De se fortifier pas par n'importe quoi, pas juste par l'exercice, quoi que ce soit bon, mais dans le Seigneur et par sa force à lui, sa force toute puissante. Si on ne prend pas les armes, on est assuré de la défaite. Donc, on doit prendre sa force à lui. Ça, c'est dans la Louis II. Le français courant va le dire un petit peu différemment. Le français courant va dire ça comme ça ici. Enfin, puisez votre force. Puisez votre force. La source. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Donc, on parle de la source ici, puis on parle d'union. On rajoute le terme de l'union ici. Parce que dans le Seigneur, oui, c'est vrai, mais comment? C'est en union avec lui. Union, c'est quoi? Ça vient quoi, union? Un. Hein? Le Père et le Fils, ils prient à un moment donné pour qu'on soit un comme eux autres sont un. Donc, ça parle d'unité, unité d'esprit, unité de façon de penser, unité de volonté, etc. Donc, on puise notre force en faisant quoi? En étant en union avec Dieu. Mettant notre pensée, nos actions en accord avec les siennes. La parole vivante. Un peu plus long. Elle est là-bas souvent. Voici ce qu'elle dit, la parole vivante. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Hein, sa toute-puissance, les ressources infinies de sa puissance. J'aime ça. Ça dit la même chose, mais parfois prendre d'autres termes, c'est bon de voir ça d'une autre façon. C'est dans la communion. Francis Courant parlait d'union. Ici, on parle de communion, qui est un mot de la même famille, hein? Commune, union. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Manquez d'énergie le matin, des fois? Hein? C'est dans la communion avec lui qu'on trouve notre énergie, notre dynamo. Donc, ce que ça nous dit le passage, verset 10, on a besoin de plus. On a besoin de s'exercer. On a besoin d'aller chercher des armes. Verset 11, il nous dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Se revêtir, s'habiller, mettre comme un manteau, hein? De toutes les armes de Dieu. Important. Pas de quelques-unes. Pas de celles que vous pensez que vous avez besoin, puis les autres, vous pouvez les laisser faire. De toutes les armes de Dieu. Il y en a qui vont essayer de faire une sélection, un buffet. On prend certaines armes, les autres, bah, elle m'attire moins, celle-là. C'est drôle parce qu'on parle d'armes ici, hein? Puis on va voir, vous connaissez le passage de jour pour la plupart de toute façon. La plupart de ces armes-là sont défensives. On les considère comme des armes quand même pour le combat. Il y en a qui vont prendre juste certaines armes parce qu'ils pensent qu'ils sont assez forts dans les autres domaines. Et ça revient à l'autre verset. Fortifiez-vous. Vous n'avez besoin de plus. On n'en a pas assez. Jamais assez. Et ces armes-là, on peut les perfectionner, hein? Les aiguiser, apprendre à les manier par la pratique. Il nous donne même une raison pourquoi il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On a parlé la semaine passée de quoi? Entre autres, tentation, la chute, les ruses du diable. Qu'est-ce que ça dit, Genèse 3.1? Le serpent était le plus rusé. Et on sait que plus tard, on dit que le serpent, c'est le diable. Donc, les ruses du diable, on en a vu un exemple. Il y en a plus qu'une, mais on en a vu une la semaine passée. Et qu'est-ce qu'il a essayé de faire, si vous vous rappelez? Mettre le doute. Mettre le doute sur Dieu, sur ce qu'il a dit, sur sa bonté, sur ce qu'il pourvoit pour nous, etc. Il vous manque quelque chose, hein? Donc, il y a plein de ruses, le diable. Il nous demande de revêtir des armes pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il faut être aux aguets. Il faut être sur nos gardes, il faut être comme un sentinelle. Soyez sobre, veillez, hein? On avait vu la semaine passée. Donc, sobre, c'est pas nécessairement, comme on disait, juste une question de ne pas être ivre, mais d'être aux aguets. Et pourquoi il faut sonner contre les ruses du diable? Mais il dit au verset suivant, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et là, vous allez dire, wow, minute! On n'avait pas dit que le troisième ennemi, la semaine passée, c'était la chair, c'était nous-mêmes, nos pensées, etc. Oh, je me contredis ce matin. Non, je pense qu'ici, la chair et le sang, c'est pas notre chair. Il fait allusion, tout simplement, c'est une expression pour parler d'être humain. Donc, on n'a pas nécessairement lutté contre les êtres humains. On ne sortira pas ce matin avec des pancartes ou avec des épées, encore moins, pour aller combattre. Ouais, mais là, le deuxième ennemi, c'était le monde. Ah, problème, problème. Mais si vous vous rappelez ce qu'on a dit, le monde est sous l'emprise de prince de ce monde, qui est Satan. Nous, on ne fait plus partie de ce royaume-là parce qu'on a été rachetés, Dieu merci. Mais ceux qui ne sont pas rachetés sont encore dominés par ça. Donc, Satan est en arrière de tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on ne lutte pas directement contre les gens. On lutte contre quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les autorités. Là, je ne parle pas des autorités du gouvernement. Hein? C'est enregistré. Fait que contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il prend des synonymes ici. Hein? On parle de quoi? On parle de Satan, des démons, monde spirituel. La parole vivante va le dire de cette façon-ci. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. C'est pas juste un combat personnel. On est dans l'armée de Dieu. Nous n'avons pas lutté uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique. Hey, j'aime ça, une organisation. Ça fait peur quasiment quand on voit ça, mais... Saviez-vous que le monde spirituel, il est organisé? Il est organisé à hiérarchie, il est organisé dans sa façon de faire, il est organisé dans son plan de travail. Et nous autres, on ne le serait pas. Si nous autres, on est tous désorganisés, lui est organisé. Si on est désorganisé, on risque d'être, de ne pas être prêt quand l'attaque va venir. Lui est organisé. Contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, entre autres. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Assez précis, hein? Donc, si vous doutez encore de ce que c'est... On a à lutter contre tout ça. C'est un assez grand combat déjà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? On a à lutter contre toutes ces choses-là. Il revient verset 13. C'est pourquoi, sachant qu'on a à combattre contre toutes ces puissances-là, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Deux fois en trois versets qui répètent ça. C'est important. Il met de l'emphase là-dessus, je pense. Prenez toutes les armes de Dieu. Pas une sélection. Il donne encore une raison, la même raison, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Si vous pensez être capable par vous autres mêmes sans les armes, Paul insiste et insiste et insiste, deux fois en trois versets, pour prendre toutes les armes et pour résister. Sans les armes, vous ne pourrez pas résister. C'est ce que ça dit, en d'autres termes, si je note les lignes. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et quoi? Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Moi, j'aime ce verset-là. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais dans ma tête à moi, selon la logique, quand on a tout surmonté, on a gagné. On peut prendre ce relax. C'est fini. On a tout surmonté. On est rendu en haut, au sommet. Et pourtant, ce n'est pas ça que le passage dit. Il dit qu'un coup qu'on a tout surmonté, il faut tenir ferme. pas être à bout de ressources, pas complètement épuisé. Pourquoi? Parce que le combat, il n'est jamais fini. On peut remporter une victoire, Dieu merci, mais le combat ne sera jamais fini. Il va finir quand le combat? Le jour où Jésus va revenir. Pour certains individus, ça va être avant. Mais le combat général de l'Église dans son ensemble, ça va être seulement au retour du Seigneur. Donc, réjouissons-nous quand on gagne des batailles, mais soyons sur nos gardes parce que l'ennemi va revenir. Il y a une armée puissante, il y a une armée nombreuse, puis une qualité, si je peux dire ça comme ça, hein, selon tout, entre guillemets, que l'ennemi a, c'est bien qu'il est persévérant. Si nous autres, on ne l'est pas, lui, il l'est. Alors, si nous autres, on ne l'est pas, il va finir par nous pogner au tournoi à un moment donné. Donc, un coup qu'on a tout surmonté, il faut être capable de tenir ferme encore après ça. Et encore une fois, ce n'est pas par nos forces, hein? Restez sur vos gardes. Vous pourrez voir tout surmonté. Et là, il commence, à partir du verset 14, avec une description des armes. Première arme qui parle. Et avant de dire ça, tenez donc ferme. Si vous trouvez qu'on se répète des fois, là, on n'est pas les seuls, hein? Pourquoi que Paul se répète toujours? Est-ce qu'il veut mettre de l'emphase? Tenez donc ferme. Il se répète. Tenez ferme. Prenez toutes les armes. L'ennemi est là. Si vous avez une attitude de « c'est facile », voyons donc, la vie chrétienne, c'est supposé d'aller de simple. Un coup d'un lien chrétien, nos problèmes disparaissent. Ça ne ressemble pas à ça ce que Paul parle. Il insiste. C'est pas facile, il y a un combat. Il n'y a jamais un combat sans effort, sans difficulté, sans blessure même. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors, il commence avec ce que le centurion romain commençait aussi, la ceinture. Première chose que le centurion mettait. Les ceintures, à l'époque, ça ressemblait à ça. Ceinture de cuir avec des lanières de cuir sur le devant. On parle souvent dans la Bible, dans le Nouveau Testament, de cindre. Cindre les reins de l'entendement, mais aussi Jésus donne des paraboles, donne des exhortations à cindre nos reins. Ça veut dire quoi, ça? Cindre, c'est mettre la ceinture. OK? Pourquoi? Bien, parce que dans ce temps-là, il travaillait avec des vêtements amples. Et le fait de mettre une ceinture pour cindre les reins, serrer les reins, permettait d'avoir une facilité dans les mouvements. Donc, on voit ça souvent au niveau du travail, mais on voit ça aussi au niveau ici du combat, du soldat. Le soldat ne veut pas être pris dans ses mouvements. Essayer de donner un mouvement à un moment donné et être pris dans son vêtement, ça serait être assez facilement à la merci de l'ennemi. Donc, ceindre ses reins, c'est important. Vous remarquez aussi qu'il y avait comme des protections, quand même un petit peu minimales, mais quand même, une protection à l'avant, protéger les parties, ça pouvait aider aussi. Donc, ça sert aussi de protection en même temps. Donc, la ceinture, comme j'ai dit, c'est le premier élément que le soldat va mettre quand il commence à mettre son armure. Bien sûr, il y a des vêtements dessous, mais quand même. On parle d'armure, c'est le premier élément qu'il met. Il se prépare au combat lorsqu'il met sa ceinture. Il commence à se préparer. La ceinture ici, c'est la ceinture de quoi? La vérité. Point de départ. La vérité. C'est drôle parce que ça fait contraste avec ce que l'ennemi commence avec aussi, hein? Le mensonge. Nous, on commence tout de suite à contrer ça, avec la vérité. Point de départ, parce que c'est la vérité, dans le fond, la vérité contenue dans la parole de Dieu, la vérité révélée par l'Esprit avant ceux qui n'avaient pas accès avant ça. C'est cette vérité-là qui nous enseigne, qui nous dit qu'on est pécheur, qu'on a besoin de Dieu, entre autres. Donc, ça commence là. Important de connaître cette vérité-là. C'est grâce à cette vérité-là, quand on a reconnu cette vérité-là, qu'on a pu venir à Christ, donner notre vie, demander pardon, être né de nouveau. Donc, c'est important, la vérité. Comme j'ai dit, la vérité aussi, c'est le point de départ pour contrecarrer l'ennemi. Parce que l'ennemi vient avec quoi? Le mensonge. Semer le doute et tout ça, il vient avec le mensonge. Donc, on commence tout de suite là aussi avec la vérité. Mettre, opposer, si je peux dire ça, le mensonge à la vérité. Ou la vérité au mensonge, en tout cas, comme vous voulez. Si on connaît la vérité, qu'on met la confiance en la vérité, le mensonge ne peut pas nous atteindre. Si je suis convaincu que la vérité que je connais, que la Bible contient, que je suis convaincu que c'est vrai, quand le mensonge vient, il se passe quoi? On le rejette. Si on ne la connaît pas, la vérité, là, ça peut nous atteindre. Là, c'est dangereux. Si on la connaît, mais qu'on la met en doute, c'est aussi dangereux. Donc, il faut la connaître, mais il faut plus que la connaître. Il faut la croire, il faut mettre sa confiance. Toutes les âmes qu'on va mentionner aujourd'hui, là, j'ai un petit bibelot chez nous que j'avais partagé avec certaines personnes qui sont toutes les âmes de Christ, toutes les âmes mentionnées ici. Puis je l'aime sauf une chose. Ce que j'aime pas, je l'ai acheté quand même, mais bon, ce que j'aime pas, que j'ai réalisé par la suite, c'est que toutes les âmes sont sur un support. Ils sont pas sur le soldat. On peut avoir toutes les âmes si on les utilise pas. Ça ne servira pas à grand-chose, hein? Dieu, chef de l'armée, nous a donné des armes, nous a mis à notre disposition. Si on les met sous le support et qu'on ne s'en sert pas, le combat va être assez vite fini. Donc, la vérité, il faut la croire. Il faut s'en servir. La vérité vient de quoi? Ta parole est la vérité, dit Jésus 17 dans la prière. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. On n'a pas accès de nos jours, en tout cas, à part peut-être dans de très rares occasions, à avoir des révélations directes de Dieu. Mais on a un accès, comme personne d'autre a eu dans le cours de l'histoire, à la parole. On l'a même sur des petits appareils, ça de gros maintenant, qu'on peut traîner partout dans notre poche. On y a accès. Est-ce qu'on s'en sert? Ça, c'est une autre chose. Il faut la lire. Ça, c'est la première étape. Et je l'ai déjà dit, ça n'arrête pas là. Il faut aussi l'étudier. Comprendre parfois des choses qui, à première vue, sont peut-être pas simples. Et Dieu a voulu ça comme ça. Un enfant de 5 ans va l'aller et il va comprendre des choses. Dieu va se révéler même à des petits-enfants. Mais des érudits d'université aussi vont l'aller et vont comprendre encore d'autres choses. C'est une source inépuisable. C'est pas pour rien qu'on le dit qu'elle est vivante. Le Saint-Esprit parle au travers d'elle aussi, pas juste par la parole écrite. Donc, il faut l'étudier. Mais j'ajouterai une autre chose ce matin aussi. Il faut la mémoriser. Ça va aider en l'étudiant, parce qu'on va mettre le focus sur des passages, mais il faut la mémoriser. Vous avez remarqué Jésus quand il était dans le désert, hein? Il n'a pas dit, attends un petit peu, je vais aller chercher mes rouleaux. Il me semble que c'est écrit. Hein? Ça aurait été mal dans le désert, hein? Il l'avait mémorisé. Oui, vous allez dire, c'est de la parole, oui. Mais il aurait pu rejeter Satan d'un coup sec, hein? Je pense qu'il nous a laissé quand même un exemple pour nous autres comment suivre, comment se comporter. Si on veut avoir la vérité, si on veut s'en servir, la manier comme une épée qu'on va voir plus tard aussi, il faut la connaître. Je vous demande pas de mémoriser les 66 livres avec les centaines, les dizaines de milliers de versets, mais il y a des versets clés que c'est important de connaître, que c'est important de mémoriser. Puis c'est peut-être pas les mêmes versets pour tout le monde, mais si vous avez des difficultés particulières avec une chose, mémorisez des versets qui ont rapport avec ça. Que ce soit des tentations, que ce soit le découragement, la dépression, quoi que ce soit. Gourmandise, peu importe. Mémorisez des versets qui ont lien avec ça, afin que quand l'attaque va venir, vous ayez tout de suite à l'esprit, non, la vérité, c'est ça. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ça. Peu importe ce que mon esprit ou Satan va me souffler, la vérité, c'est ça. Je l'ai lu, je la connais, je la comprends et je la crois. Important. Donc, la mémoriser, ça demande des efforts. Ah! Oui, la guerre demande des efforts. Deuxième arme, au même verset. Revêtez la cuirasse de la justice. Cuirasse, plastron, si vous préférez. Voici un exemple. Il y en avait en côte de maille, il y en avait en métal comme ça. Ça sert à quoi, la cuirasse? À protéger comme le reste, bien sûr, mais protéger quoi? Les organes vitaux. Cœur, poumons, etc. Même, ça va assez bas. Les reins, etc. Les organes vitaux. On pense premièrement probablement au cœur, mais c'est tous les organes au complet. Et qu'est-ce que la Bible dit justement dans les Proverbes? Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. On parlait de sources tantôt. De notre cœur viennent les sources de la vie. Malheureusement, de notre cœur viennent les sources du mal aussi. Trop souvent. C'est nous autres qui choisissons. Garde ton cœur plus que toute autre chose. OK, on sait très bien que ce n'est pas le cœur qui a des pensées. On va parler des pensées plus tard. Mais les émotions, trop souvent, guident nos pensées. On se laisse, et on devrait probablement pas, mais on se laisse guider par nos émotions. Et j'ai jamais dit, je ne dirai jamais que les émotions sont négatives. Hein? Dieu les a créées, Dieu les veut. Par contre, il faut les gérer. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La justice, la cuirasse de la justice, c'est quoi la justice? Bien, la justice ici, premièrement, c'est celle de Jésus-Christ, celle qui nous a donné. Si on est juste devant Dieu, ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas nous autres, le chef de l'armée. Donc, c'est la justice que Jésus nous a donnée, celle qu'on a aux yeux de Dieu par son sacrifice à lui. Comme Paul parle dans Romains, tout ça, la justice a été imputée, a été mise à notre compte. Notre dette est effacée. Fait que la justice qu'on a, c'est la sienne. Et si on croit ça, si on est conscient de tout ça, que la justice, c'est celle, c'est l'œuvre de Jésus, c'est pas notre œuvre à nous autres, bien après ça, on peut avoir confiance aussi que la cuirasse de la justice va tenir le coup. Parce que si c'est ma justice à moi, il risque d'avoir des failles. Mais si c'est sa justice à lui, il n'y en a pas. Je peux avoir une pleine confiance dans cette armure-là. Notre propre justice à nous autres, comme j'ai écrit ici, n'est pas plus efficace qu'un chandail de coton. Contre une épée, une lance, une flèche, chandail de coton, pas très efficace. Hein? Donc, comme dit Paul, je voudrais te trouver, non pas avec ma justice, mais avec celle de Jésus-Christ. Hein? Je mettrais ici, par contre, un petit bémol. La justice officielle, qu'on est juste aux yeux de Dieu, en d'autres termes, ça vient par Jésus-Christ, point à la ligne. Rien d'autre à ajouter. Par contre, on parle aussi d'œuvre de justice. Et je pense que c'est important ici aussi, qu'on fasse les œuvres de Dieu. On ne se contente pas de recevoir sa justice, puis bingo, c'est fini là. Merci, 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 j'ai reçu. Il faut donner après. Faire des œuvres de justice qui viennent du cœur aussi, justement. Hein? Et si on fait ça, faire du bien autour de nous, ça va aider. Dans l'Église, ça va aider nous-mêmes, je pense premièrement, et ça va aider même les gens de l'extérieur. Ça va être un bon témoignage pour eux. Ça ne va peut-être pas les empêcher de nous attaquer à un moment donné. Oui, il y a des gens comme ça. Mais ça va être quand même un bon témoignage pour eux. Paul exhorte Timothée de faire des bonnes œuvres, d'être un bon témoignage et tout ça. Rechercher la justice, que dit Paul à Timothée deux fois, dans 1 puis dans 2 Timothée. Et si on fait ça, on veut juste être des bons disciples de notre maître. Parce que c'est ce qu'il fait. Puis c'est ce qu'il dit aussi à un moment donné. Hein? Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait du bien sur les bons comme sur les méchants. Alors, on est appelé à faire la même chose. Donc, c'est premièrement la justice acquise par Jésus-Christ, oui. Mais on peut faire des œuvres de justice, nous autres aussi. Pas pour notre salut. Aucun lien avec ça. Juste par obéissance. On continue. Mettez pour chaussure, verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Les chaussures. Les chaussures d'époque. J'ai pris des images. Représentation d'époque, malheureusement, pas aussi belle à l'écran, mais bon. Important, les chaussures. Pensez pas? Ça sert à quoi, les chaussures? Bien, pour un soldat, pendant un combat, c'était fait de façon, vous voyez aussi comment c'est lié, comme faux chevilles et tout ça, de façon à être ferme, à être solide. Pourquoi? Parce que parfois, il y avait à repousser des ennemis avec leurs boucliers, on en parlera plus tard. Mais si tu glisses quand les autres te poussent, tu n'as pas une grosse résistance. Donc, ça les empêchait de glisser, ce qui donne beaucoup de force. Si vous avez déjà essayé ça, repousser quelqu'un qui est en position droite versus en position pour bien parer, c'est pas la même chose. Hein? Donc, les chaussures empêche de glisser, de perdre pied. Et il y a même des versets dans l'Ancien Testament qui parlent de ça. Là. Il y a des images, je ne me rappelle plus du verset, je ne l'ai pas écrit, mais que lorsque la chaussure est déliée ou quoi que ce soit, que déjà, on commence à perdre le combat. Si tu es au combat, tu trébuches. Ça commence à être difficile à te défendre, mettons, face à l'ennemi. J'irai plus loin aussi. La chaussure sert à quoi? Il marchait des kilomètres et des kilomètres parfois pour aller au combat. Souvent dans des routes pierreuses, sèches. Essayez d'aller au combat quand vous avez les pieds tout meurtris, vous n'êtes même pas capable de rester debout. Pas très efficace, hein? Ça a l'air de rien quand on parle de toute l'armure. C'est bien important, la cuirasse pour protéger les organes vitaux et tout ça. Mais si on n'est pas capable de tenir debout, oh, c'est la base ça aussi, hein? Fondation. Quand on dit que toutes les armes sont importantes, Il n'y en a pas une qui est laissée au hasard. Les chaussures de zèle qu'on parle ici. C'est quoi du zèle? Définition que j'ai donnée un peu. Empressement, motivation. Je pense que ça peut être des bons synonymes. Mais le vrai terme ici aussi veut dire préparation. On est prêt. On est préparé. Les pieds sont bien fermes. Hein? C'est ce zèle-là qui nous fait tenir. Mais c'est ce zèle-là aussi qui nous pousse, qui nous aide, qui nous permet de parcourir des kilomètres parfois, littéralement ou de façon imagée, pour aller chercher les armes, pour aller au combat. Parcourir de longues distances parfois pour faire ça. Et pourquoi ce zèle-là? L'origine de ce zèle-là, c'est quoi? L'évangile de paix. Vous savez qu'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile, il y a quatre évangiles, c'est des bonnes nouvelles. C'est quoi la bonne nouvelle? Le salut qui est annoncé. Ce salut-là qui nous donne la paix avec Dieu. C'est ça qui est notre source de motivation pour aller, pour donner du zèle à nos pieds. Qui sont beaux les pieds de celui qui annonce les bonnes nouvelles. Hein? Vous voulez avoir des beaux pieds? On n'est pas des maniaques de pieds, moi et ma femme. Sont beaux les pieds de celui qui annonce l'Évangile. Et c'est de l'Évangile de paix qu'on parle ici. C'est ça qui devrait être notre motivation d'aller au combat. Oui, pour nous, parce que l'ennemi vient nous chercher. On n'a pas besoin d'aller vers lui, il vient nous voir. Mais parfois, on a besoin d'aller aussi, aller chercher les armes, aller les arracher au royaume des ténèbres. Et là, on a besoin de nos souliers pour aller aussi. Guidé par le zèle. La Darby, le mot, rend le mot zèle, de façon un peu plus littérale, comme je vous disais tantôt, par une préparation. Une préparation que donne l'Évangile. Être disponible, être prêt. La Sommeur, elle, mentionne le mot « disponibilité à servir » au lieu de « zèle ». C'est beau le zèle, c'est super, puis j'aime ça. Ça démontre, pas juste, tu sais, quand t'as pas de zèle, c'est « j'y vais, je m'en vais au combat comme ça. Je pense que je te ferai pas longtemps. » Zèle, motivation, on est motivé à faire quelque chose. Beaucoup plus facile, beaucoup plus de chances de gagner. Fait que j'aime ce terme-là. Mais j'aime l'idée aussi que la Sommeur donne d'être disponible. La disponibilité à servir. C'est ce que Dieu nous demande, hein? C'est lui qui donne la force. Il nous demande de ne pas s'appuyer sur notre force, parce que c'est lui qui la donne. Mais il nous demande juste d'être disponible. Marie, elle n'a rien fait de spécial. C'est donc d'être disponible. Quand l'ange est apparu puis qu'il a fait la promesse qu'il était pour enfanter, elle était disponible. Donc, disponible à servir. Verset 16. Prenez par-dessus tout ça, en plus de tout ça, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est pas mal une des seules armes qu'on mentionne un but direct, hein? Éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, jusqu'à date, puis il en reste encore au moins un, c'est tout sur le corps directement du soldat. Celui-là, il est par-dessus. Par-dessus tout ça, il est externe. Le bouclier de la foi. De quoi va l'air le bouclier? Bon, différentes représentations, mais celle-là serait probablement la plus adaptée à celle de l'époque de Jésus. Grand bouclier, on parle de probablement un mètre, ou à peu près. Contrairement à ce qui a l'air, ce n'est pas des boucliers en métal. C'est des boucliers en bois. Trois couches de bois, selon ce qu'on pense. Donc solide, mais quand même en bois. Recouvert de cuir, une peau. Tout le tour des armatures en métal, comme vous voyez ici, si ça paraît, je ne sais pas. Et au milieu, il y avait une espèce de bosse vissée là, taquée là, en métal. Et ça, ça servait à quoi? Ça servait au combat corps à corps, pour frapper cette bosse de métal-là. Donc, c'est défensif, c'est quasiment offensif aussi en même temps. Hein? Il était rectangulaire, bien sûr, et vous voyez, je pense assez bien à sa photo aussi, il était courbé. Donc, c'était pas à plat complètement. Et ça, ça pouvait faciliter la fameuse position, la fameuse rang en tortue qu'on a déjà parlé. Parce que tous les légionnaires sont un à côté de l'autre, collés, et les boucliers ils peuvent être collés un sur l'autre de cette façon-là. Plus facilement. Le bouclier à tactile pouvait servir à protéger pas mal tout le corps, hein, un mètre. C'était quand même la majorité du corps. Mais il protégeait le devant, si on est seul. Par contre, quand on était plusieurs ensemble, là, ça pouvait protéger de tous les côtés, et même du haut. Un soldat seul n'est jamais aussi puissant qu'une armée complète. Notre bouclier, très utile pour se défendre. Mais encore plus utile quand on te combine à celui des autres. Il était de cuir, c'est pas pour rien. Il était recouvert de cuir, je devrais dire. C'est pas pour rien. Parce qu'avant les combats, il le trempait dans l'eau. Le cuir va absorber l'eau, va rester humide. Et ça donne quoi? Qu'est-ce que ça dit? Étreigne tous les traits enflammés du malin. C'était en bois, les flèches plantaient dedans. Là. Il ne rebondissait pas, c'était pas métal. Donc, une flèche qui est enflammée, qui est attirée dans du haut d'une tour, va arriver sur le bouclier. Qu'est-ce qui va se produire? Le bouclier va prendre en feu, sinon. C'est en bois. Mais, grâce au fait qu'il trempait, qu'il était recouvert de cuir, la flèche s'éteignait. C'est ainsi qu'il pouvait éteindre tous les traits enflammés. Du malin, dans notre cas. Donc, le bouclier va nous servir à nous protéger et à protéger nos alliés aussi. Parce que quand on est ensemble, comme on disait, ça permet de protéger maintenant de tous les côtés, pas juste du devant. L'armée ensemble est toujours plus puissante qu'un soldat seul. Et c'est le bouclier de la foi. La foi, c'est pas toujours évident de définir la foi. Hein? C'est quoi la foi? Croire en un miracle ou la foi du salut ou quoi? On va prendre la définition du livre aux Hébreux, verset 1, 11-1. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Hein? Pas une peut-être, une hypothétique, une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance, inébranlable, ferme, sur le roc. Ça ne bouge pas. Sinon, ce n'est pas une ferme assurance. C'est pas les tempêtes, les circonstances qui vont changer ça. Maison bâtie sur le roc, qu'est-ce qui se passe? Elle résiste aux intempéries. Hein? Donc, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi, ça, les choses qu'on espère? On dirait quasiment qu'il y a une contradiction ici. Hein? C'est d'être sûr qu'on l'espère. OK. Ce qui ne m'a pas rassuré. Les choses qu'on espère ici, c'est pas « j'espère que ça va arriver, j'espère que c'est vrai ce qui est dit, parce que là, sinon, là... » C'est pas ça qu'on veut dire par les choses qu'on espère. Hein? Les choses qu'on espère, c'est des choses qui sont juste pas encore arrivées, mais quand on est sûr. Paul dit ici, dans Romains 8, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » On est sauvés en espérance. On ne le voit pas physiquement parlant encore. « Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous quoi? Nous l'attendons avec persévérance. » Donc, ce n'est pas une espérance dans le sens de doute, dans le sens d'on espère, dans le sens d'on n'est pas sûr. Mais c'est une espérance qu'on est fermement convaincu, qu'on est sûr, mais qu'on n'a pas encore vu. On sait que ça va arriver. Donc, c'est une ferme assurance, puis on l'attend avec persévérance. Ce n'est pas un doute. Ce n'est pas un peut-être. On l'attend pas, on l'attend, si on peut dire, sans se décourager, parce qu'on est persévérant. Hein? Et c'est une démonstration, ici, les choses qu'on ne voit pas. Alors, j'ai été chercher la définition de démonstration. C'est quoi une démonstration? Donc, selon le Robert, c'est quoi une démonstration, quand on fait une démonstration? Hein? Opération mentale. Raisonnement par lequel on établit la vérité d'une proposition. Donc, c'est dans notre tête, c'est mental, c'est un raisonnement. Puis, par ce raisonnement-là, on établit la vérité d'une proposition, d'une affirmation, si vous préférez. Je pense que c'est ça qui s'applique à notre définition, nous autres, dans notre contexte, à nous autres. Hein? C'est une démonstration, c'est une assurance. On a déjà une image dans notre tête de ce qui va arriver. C'est comme si c'était déjà arrivé. Mais j'aime quand même la deuxième définition que je vais vous présenter, parce que je pense qu'il y a un lien aussi. L'action de montrer par des expériences les principes d'une science, une expérience scientifique, une démonstration scientifique, ou le fonctionnement d'un appareil. On va faire une démonstration de produit. On le fait fonctionner devant vous autres, on vous montre comment il fonctionne, on fait une démonstration. Pourquoi j'aime cette définition-là, même si c'est peut-être pas celle-là exactement dans notre contexte à nous autres? Parce qu'on parle d'expérience. Et je pense que si c'est pas ce verset-là, ça va être d'autres. L'expérience est importante. L'expérience, notre vécu qu'on a avec le Seigneur, on apprend à chaque fois qu'on a une épreuve ou un combat, quoi que ce soit, on se renforcit parce qu'on voit agir. Les cicatrices qu'on a parfois nous rappellent tout simplement une victoire qu'on a eue dans le passé. Sinon, on serait à terre. Donc, si on a une cicatrice, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est un souvenir de combat passé, mais c'est un souvenir d'une victoire passée aussi. Ces expériences-là sont passées, sont présentes aussi, et sont un gage du futur. Parce que ça va arriver encore, mais on va continuer à renforcer puis à voir encore le Seigneur agir. Donc, on va vivre d'autres expériences qui vont encore nous renforcer notre foi. Ce que j'ai écrit ici, c'est qu'on ne voit pas encore ces choses, une chose que l'œil n'a pas vue. Mais notre foi, notre certitude fait qu'on agit comme si on l'avait déjà. Et c'est avec cette foi-là qu'on va pouvoir repousser des attaques et les traits enflammés du malin, de l'ennemi. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Voici de quoi avait l'air un casque. Il y en avait différents modèles, il y en avait avec des plumes aussi, de différentes longueurs, différentes couleurs, des choses comme ça. La plupart des soldats, probablement, avaient celui-là. Et si vous le gardez comme il faut sur l'image, il y a bien sûr une protection sur la tête, mais il y a une énorme protection à chaque côté aussi, qui protégeait le visage au complet, ou presque. Et à l'arrière, il y avait aussi une protection pour le cou. Les coups venus de l'arrière, il y avait une bonne protection, pas se faire couper la tête ou quoi que ce soit. Donc, il y a une protection de la tête pas mal complète, sur tous les côtés. On l'a dit, le cœur, l'organe vitaux, c'est le siège des sentiments, ça a son importance, mais bien sûr, la tête, c'est le siège des pensées. Et c'est intéressant, spécial, de parler qu'ici, on a le casque du salut. Le casque représente notre salut ici. De quoi est-ce que Satan essaie de nous faire douter? On en a parlé la semaine passée, hein? De la parole de Dieu, de ce qu'il a dit, de ce qu'on a déjà tout en Christ, comme dit Paul. Mais quoi aussi? De notre salut. Très souvent, il essaie de nous faire douter du salut. Donc, c'est le fun que le casque serve à protéger nos pensées. Satan, il essaie de nous passer, il essaie de nous faire douter, de nous faire douter de notre justification, de nous faire douter du fait qu'on était adopté dans la famille de Dieu, du fait qu'il va revenir, etc. Puis, la meilleure façon de contrecarrer ces pensées-là, protéger notre tête, nos pensées, avec le casque du salut. Mais pourquoi c'est si important, le salut ou l'assurance du salut, la doctrine de l'assurance du salut? Après tout, il y en a même qui enseignent que le salut peut se perdre. Pourquoi c'est important d'avoir cette assurance-là, protéger nos pensées au niveau du salut? Bien, deux raisons principales. La première, toute simple, parce que la Bible dit, désolé pour ceux qui croient autre chose, mais Jean ici, entre autres, 1 Jean 5,13, ils disent, « Je vous ai écrit ces choses, afin que quoi? Que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Afin que vous sachiez. Il n'a pas dit, « Afin que vous pensiez, afin que vous expériez l'avoir. » Encore que, non, parce que pour qu'on sache, c'est une certitude. Qu'on sache quoi? Qu'on sache qu'on a, que vous avez. Pas que vous aurez, pas que peut-être, que vous avez. Pourtant, on ne le voit pas encore, comme on disait. Mais c'est tellement une certitude. C'est déjà acquis qu'on peut dire qu'on l'a. Ça, c'est parce que c'est une certitude. Si ça ne serait pas une certitude, on pourrait juste dire que vous allez avoir la vie éternelle lorsque le Seigneur va revenir. Non! On l'a déjà. C'est sûr. C'est sûr pourquoi? Parce que ce n'est pas nous autres qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, il est plus grand que tout. Hein? Et c'est ça la deuxième raison. Première raison, c'est parce que la Bible dit. La deuxième raison, c'est parce que ça ne dépend pas de nous autres. Si ça dépendait de moi, c'est sûr et certain, je vais certainement manquer à un moment donné. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de celui qui nous a appelés. Jésus affirme ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. pas « je leur donnerai », je leur donne d'un présent, d'un sur cette terre. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Y en a-tu qui doutent de ça? Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. On ne peut pas les ravir de la main de Jésus parce qu'on ne peut pas les ravir de la main du Père parce qu'ils sont un. Bonne chance, mon homme, si tu essaies de raver de la main, parce que celui qui me tient, il ne me laissera pas aller. Je mets la mise en garde ici, par exemple. Il dit bien mes brebis. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'Église qui sont les brebis. Regardez les paraboles du royaume, les paraboles du filet, les paraboles du blé de l'ivraie. Être dans l'Église ne signifie pas de nous autres qu'on est ses brebis, qu'on est des chrétiens. Mais si on fait partie de ses brebis, absolument rien peut nous séparer. Absolument rien, j'ai bien dit rien, et mieux que ça, Paul y a dit rien. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, les deux extrêmes, ni les anges, ni les dominations, les choses, dominations sur la terre, des dominations dans le monde spirituel qu'on parlait, ni les choses présentes, ni les choses à venir, dans le futur non plus, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il reste quelque chose à dire? Rien, 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 rien. Penser qu'on ne peut pas notre salut, c'est penser qu'on peut faire quelque chose pour l'avoir. Et là, on va dire, mais non. On ne peut rien faire pour l'avoir, c'est juste par la foi. Alors, comment qu'on peut le perdre? Si on ne peut pas l'obtenir, on ne peut pas le perdre non plus, parce que ça ne dépend pas de nous autres, un comme l'autre. Ça dépend de Dieu. Et lui, il a déjà payé pour qu'on l'ait et pour qu'on puisse le garder. C'est lui qui a payé pour. Il nous donne gratuitement, puis c'est aussi lui qui va nous donner la force de persévérer jusqu'à la fin. Je dis bien persévérer jusqu'à la fin, ça, l'hymne en parle. Mais si on est ses brebis, on va persévérer jusqu'à la fin. C'est pas par nos forces qu'on est sauvé, c'est pas plus par nos forces qu'on le reste. L'obéissance est importante, mais on obéit parce qu'on est sauvé. Pas pour être sauvé, ni pour le rester non plus. Et on continue. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit. On dit que l'épée, c'est la seule arme offensive. Bon, on parlait du bouclier peut-être un peu tantôt. Mais oui, c'est une arme offensive. Mais je pense qu'on a oublié un petit peu aussi que c'est une arme défensive. Si vous avez déjà vu des combats à l'épée, laissez-moi vous dire qu'on en part des coups aussi, grâce à notre épée. Donc, c'est une arme offensive, oui, mais une arme aussi défensive, pas uniquement offensive. La parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Est utile, même, je dirais, nécessaire pour contrer les attaques de l'ennemi. C'est donc important de la connaître. Pas juste de savoir qu'elle est là et qu'on l'a sur une bibliothèque en 10 exemplaires. Il faut la connaître. Il faut la comprendre. Et encore une fois, je pense que le meilleur exemple qu'on a de ça, du maniement de l'épée, de la parole, c'est Jésus dans la tentation dans le désert. Chaque fois qu'il était attaqué, premièrement, il pouvait bloquer le coup parce qu'il connaissait la vérité. Il savait que ce que Satan disait, c'est un mensonge, parce qu'il connaissait déjà la vérité. Et par la suite, il faisait quoi? Un coup qu'il avait paré un coup, il contre-attaquait tout de suite avec la parole. Jésus sait la parole. Il aurait pu dire n'importe quoi puis s'arrêter l'autorité. Mais il a choisi, pour nous servir d'exemple, de citer la parole écrite qui avait déjà leur possession, qui est l'Ancien Testament. Donc, je vous disais tout à l'heure de mémoriser pour s'en servir en temps opportun quand on est attaqué. C'est ce que Jésus a fait lui-même. Il a contre-attaqué en citant la parole toujours. On sait que Satan va s'en servir même de la parole, donc il faut bien la connaître pour parer les coups, pour savoir si c'est des faussetés, versets hors contexte ou quoi que ce soit. Mais il y en a qui se promènent avec un petit canif ou un couteau à beurre. Essayez de combattre contre une épée avec un couteau à beurre, vous ne vous battrez pas longtemps. Ça prend une épée, ça prend une épée qui est aiguisée, qu'on prend soin. Ça prend du temps, ça prend des efforts, mais combien c'est précieux par la suite. Mais rappelez-vous aussi que c'est la seule arme qu'on peut attaquer avec. Qu'est-ce qui se produit si on n'a pas d'épée? On a une armure pour se protéger. On peut parer les coups. Mais pendant combien de temps qu'on va parer les coups? On va finir par faiblir, puis faiblir, puis faiblir, jusqu'à temps qu'à un moment donné, les coups nous atteignent. On doit être capable de contre-attaquer. Et pour ça, c'est un essentiel qu'on ait la parole de Dieu. C'est notre épée. C'est pas une option. Si on veut contre-attaquer, c'est un impératif. Et comme je l'ai dit, je répète, c'est de la connaître, c'est même de la mémoriser. Donc, si vous êtes du genre un matin à dire « Ah, j'aime pas ça lire », c'est important. C'est pas une option. C'est pas une option. Ça détermine directement l'issue du combat que j'écris ici. Je dois avancer. Verset 18. C'est comme une espèce d'emballage autour de toutes ces armes-là. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est important, non seulement d'avoir l'armure, mais de savoir pour qui on combat et avec qui on combat. On combat pas pour nous autres, pas pour nos bénéfices, pas pour nos intérêts, on combat pour Dieu, dans son armée à lui. Et non seulement pour lui, mais avec lui. Il est là avec nous sur le champ de bataille. C'est le commandant à la tête. Et il est là avec nous. Et par la prière, on a une communication, un accès direct à lui. Donc, il faut faire en tout temps les prières. L'Éternel des armées, qu'on l'appelait dans l'Ancien Testament, il faut lui parler à tout temps. Paul va le parler ici même de prier sans cesse. Jusqu'à temps que vous arrêtiez. Sans cesse. Ça ne doit pas arrêter. Avec une entière persévérance. Que ça y aille bien, que ça y aille pas bien, en tout temps. On en a toujours besoin. Mais on ne doit pas non plus combattre seul. Je dois aller vite parce que c'est terminé, mais on ne doit pas combattre seul. On est une armée. On mentionnait tout à l'heure, exemple, avec les boucliers. Seul, on peut en faire un certain temps. En tant qu'armée, on va conquérir des choses que c'est impossible de conquérir seul. Ça prend une armée. Ça prend la prière les uns pour les autres. Ça prend la foi les uns pour les autres. Ça prend de s'encourager, de s'épauler, mais ça prend de prier les uns pour les autres. Ce qu'il nous dit ici aussi. Prier pour tous les saints. C'est hyper important qu'on s'appuie sur l'armée. Et j'en ai déjà fait l'expérience, vous autres aussi, je l'espère. Quand on demande des prières, ça peut peut-être parfois être humiliant dans certaines occasions, mais on le sent, l'armée qui prie derrière de nous autres. On sent qu'on est porté, qu'on n'est pas seul. Non seulement ça nous encourage nous autres, mais ça l'élève un paquet de voix vers le trône de Dieu. C'est hyper important. Parce que le temps avance, je vais vous laisser sur deux passages hyper importants pour conclure tout ça. Romains 13, Paul y dit, « La nuit est avancée, le jour approche. » C'est une image, hein? On sait que le temps est avancé, je ne parle pas de ce matin, mais dans l'horloge du temps, si on peut dire ça comme ça, le Seigneur revient bientôt. Le jour où ce que les ténèbres vont être dissipées, il approche à grands pas. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons quoi? Les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Il vient de dire qu'on est dans les ténèbres. Mais on peut marcher comme en plein jour, parce qu'on a le Seigneur qui éclaire, qui va éclairer la ville un jour, hein, qui est avec nous, qui est dans la lumière. On peut marcher dans la lumière à cause de ça. Loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Loin des choses du monde, en d'autres termes. Mais revêtez-vous de l'armure. Ah, non. Du Seigneur Jésus-Christ. Synonyme. Notre armure, c'est lui. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair. Ayez soin de votre esprit, de l'esprit, de votre armure. Et non pas de la chair pour la satisfaire, elle. Et dernier verset, Paul dit à Timothée, pas longtemps avant de mourir, sans doute, il n'est pas de soldat. On est des soldats dans l'armée. Il dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Soyons des soldats dignes, fidèles, qui combattons, pas qui restons à la maison avec l'armure sur le support. Il y a encore beaucoup à dire, mais le temps avance. Donc, en conclusion, je vous dirais, plongez-vous dans la parole, c'est important, maîtrisez-les, priez le Seigneur, puis de combattre tout ensemble en armée, et non pas seul. On va laisser pour la louange pour terminer.